Dans Entre-guerres, il évoque son parcours et partage ses réflexions sur la violence, la fraternité ou le combat. Au moment où la guerre qui revient nous fait peur, j'ai voulu dire qu'elle ne doit pas nous paralyser d'effroi.
Général Lecointre, dans les premières pages d'Entre-guerres, ce récit, vous évoquez votre enfance et vous dites que j'étais un enfant rêveur, introverti, assez féminin. Cet enfant est devenu capitaine puis général et un héros. Ce sont les termes fréquemment employés à votre égard. C'est intéressant parce que, a priori, enfant rêveur et féminin, ce n'est pas synonyme de cette idée qu'on se ferait du guerrier presque viriliste.
Non mais d'abord, parce que je pense que l'héroïsme est toujours une affaire de collectif. Mmh. On n'est jamais héros tout seul. Mmh. On est héros parce qu'on est poussé par les autres, on est héros parce qu'on a envie de conserver l'estime que les autres ont pour soi. Et donc je crois que ça n'a rien à voir avec la sensibilité d'un individu. Et par ailleurs, les qualités viriles du soldat ou qu'on lui prête, le courage, l'héroïsme, vous le disiez, la force physique, d'abord ne s'opposent pas à la féminité de quelqu'un, c'est une question de sensibilité. Et puis par ailleurs, se trouve aussi souvent, beaucoup, ou tout autant chez des femmes, qui peuvent être aussi héroïques, qui peuvent être aussi courageuses, mais qui peuvent être aussi cruelles, je pense, que n'importe quel homme. En fait, souvent, on se pose la question de savoir si on supporterait de voir une femme tomber au combat. C'était un des arguments qui était utilisé au début de la féminisation des armées pour dire qu'il ne faut pas faire ça, parce que les femmes elles-mêmes faibliront. Je ne crois pas que les femmes, malheureusement, soient plus faibles que les autres, ou heureusement, mais je ne crois pas du tout qu'elles cèdent plus à leurs émotions que des hommes.
Général Lecointre, on est le 27 mai 2024, 29e anniversaire d'un événement qui a été fondamental dans votre existence. À Sarajevo, la reprise héroïque, encore une fois, d'un verrou clé à l'époque, dans cette guerre qui a été sauvage. Vous avez eu un comportement admirable et pourtant, vous écrivez, vous analysez, vous disséquez ces 18 minutes au cours desquelles vous avez éprouvé la perspective de jouissance à l'idée de tuer. C'est presque d'ailleurs un lexique sexuel. Et vous avez failli tomber dans l'indignité, c'est-à-dire l'animalité.
Oui.
Ça vous hante ?
Ça me hante. D'abord, ça hante tous mes camarades. Et aujourd'hui, je pense à tous mes forbans avec lesquels je suis monté à l'assaut il y a 29 ans. Et on s'envoie des messages chaque année, toute l'année, mais en particulier ce jour-là. Donc je pense à eux et je pense qu'eux tous continuent d'éprouver cette émotion particulière, d'avoir surmonté une épreuve ensemble, qui n'est pas tant l'épreuve de devoir risquer sa vie que l'épreuve de devoir donner la mort.
Oui, mais vous avez failli perdre votre âme.
Mais moi, j'ai failli perdre mon âme parce que pour surmonter sa peur quand on va au combat, on est obligé de laisser s'éveiller en soi et laisser déclencher une forme d'animalité qui va vous pousser en avant. Et malheureusement, cette animalité n'est pas belle. Cette animalité, elle vous fait éprouver ce que vous citiez à l'instant, c'est-à-dire cette jouissance de tuer. Et par ailleurs, cette jouissance de tuer, elle est alimentée elle-même de la vengeance et de la satisfaction que vous avez de venger vos amis, de vous venger de la peur que vous a infligé cet ennemi. Et c'est évidemment contre toutes les lois de la guerre de jouir de cela. Et c'est contre surtout sa propre dignité. Et c'est quelque chose qui est terrible que vous ne parvenez à surmonter que parce que dans le huis clos du combat, en réalité, tout se passe par des échanges de regards en permanence. Et c'est cela qui vous rappelle à l'estime de vous et au besoin que vous avez de la conserver et qui vous empêche de déroger.
Dans la guerre, vous dites, Général Lecointre, il est possible de conserver sa dignité, vous en parlez à l'instant, mais quand on voit les guerres actuellement qui nous entourent dans le monde, au Proche-Orient notamment, on a l'impression qu'il est difficile d'entendre cela et qu'on puisse faire une guerre proprement.
Il y a du droit international, il y a du droit de la guerre, il y a le jus in bello qui, en théorie, garantit des règles de comportement qui évitent de massacrer des civils, qui évitent évidemment la torture, etc. Et tout soldat, en particulier tout soldat français, est instruit de cela. Ensuite, c'est vrai que ça ne préserve ou ça ne garantit pas systématiquement de tous les écarts. Et c'est ce dont j'ai voulu témoigner dans ce livre-là aussi, parce que un soldat ne doit pas avoir peur, un soldat doit être courageux, un soldat ne doit pas être cruel. Et malgré tout, quand vous êtes confronté à cette espèce de paroxysme de violence, cette densité incroyable du combat, eh bien, vos instincts peuvent vous pousser à éprouver tout cela. L'envie de vous venger, on l'a dit, la peur, l'envie de vous enfuir. Et donc, en réalité, ce qui va vous retenir, ce ne sont pas les règles. ce ne sont pas les règlements internationaux ou le droit, c'est encore une fois le collectif. C'est-à-dire le fait que vous ayez longuement au préalable préparé cet engagement dans le combat, que pendant l'engagement dans le combat, vous passiez votre temps avec vos hommes, avec vos frères, à échanger sur les raisons qui vous conduisent à accepter ce combat et ce risque, qui vous interroge sur le fait que vous deviez tuer, parce que c'est aussi ça, et c'est d'abord ça le métier d'un soldat, c'est de devoir déclencher la violence de manière délibérée jusqu'à tuer. C'est cette obligation qui lui est faite par la vocation qu'il a choisie, et parce que sa société entière, parce que son pays, parce que la nation le lui demande.
On va évoquer avec vous, Général Lecointre, et avec Anna, le fait que l'armée française a du mal, de plus en plus de mal peut-être, en ce moment, à susciter des vocations.
Oui, pour la première fois depuis 10 ans, l'armée de terre a eu du mal à recruter. En 2023, 2000 soldats manquaient à l'appel, et c'est le même constat pour l'armée de l'air, avec 400 recrues en moins. Alors, plusieurs raisons expliquent ce désamour. Déjà, les jeunes n'ont aucune envie de s'engager dans l'armée pour patrouiller, faire de la surveillance dans les gares ou pendant les Jeux Olympiques de Paris. C'est beaucoup trop loin de l'aventure qui est promise dans les campagnes de recrutement de l'armée. Et, mais certains pointent aussi du doigt les infrastructures vieillissantes, les entraînements physiques trop difficiles ou encore la contrainte de la mobilité territoriale pour les familles. Alors pour essayer de fidéliser les nouvelles recrues, l'État a débloqué un plan de 750 millions d'euros pour améliorer les conditions de vie des familles. Général Lecointre, comment est-ce que vous analysez ces difficultés de recrutement? Est-ce que c'est qu'aujourd'hui, peut-être pour les nouvelles générations, c'est plus difficile, ça a moins de sens de servir le drapeau français?
Alors, je ne crois pas. D'abord, c'est assez récurrent, même si la période qu'on connaît aujourd'hui est plus difficile. C'est assez récurrent et ensuite c'est très lié au chômage et au taux d'emploi en France. Ensuite, ce qui est vrai, c'est que c'est une vie très exigeante, très en décalage avec notre société. Parce que vous l'avez dit, c'est physiquement exigeant, parce que c'est exigeant pour les familles, et exigeant pour les familles parce que les époux, les conjoints partent longtemps, vont courir des risques, pour encore une fois des métiers qui ne sont pas, et des opérations qui ne sont pas toujours comprises, et puis parce qu'en plus ça impose, en particulier pour les sous-officiers et les officiers, une mobilité géographique qui contraint énormément la vie des gens, qui fait que pour un officier, tous les 3 ans vous déménagez, qui... rend très difficile une vie professionnelle et une carrière professionnelle pour le conjoint, qui rend difficile la scolarité et la stabilité de la scolarité. Mais le paradoxe, c'est que je pense que c'est à la fois très en décalage avec notre société et que c'est aussi ce qui attire nos jeunes soldats. C'est cette exceptionnalité qui fait qu'ils sentent bien que, de toute façon, c'est un métier de vocation.
Général Lecointre, une dernière question. Page 72, vous dites « On ne se bat pas pour restaurer la démocratie, la mission sacrée du soldat, ça n'est pas ça ». Est-ce que ça ne serait pas une cause sacrée que de se battre pour la préservation de la démocratie ?
Les raisons pour lesquelles les Américains ont lancé tant d'opérations, c'était pour restaurer la démocratie, ou pour l'instaurer, par la force. Et il m'arrive souvent de dire que la guerre, c'est... Voilà, par exemple, la guerre, c'est la définition qu'en donne le philosophe Gaston Boutoul, qui a écrit sur un traité de polémologie, qui dit que c'est une lutte armée sanglante entre groupements organisés. Et donc mettre comme raison ultime d'un engagement qui soit une lutte armée et sanglante l'instauration de la démocratie, sachant que beaucoup de personnes ont des définitions différentes de la démocratie, ça ne me semble pas suffisant. Il me paraît qu'il faut, évidemment, ce sont nos valeurs, mais qu'il faut toujours qu'il y ait un lien entre l'intérêt de la France, ses valeurs, sa place dans le monde, sa vocation et le combat terrible que doivent mener leurs soldats, ces soldats.
Merci Général Lecointre.
Je vous en prie.
Merci d'être venu sur le plateau de 28 minutes, entre guerres. Eh oui, entre lesquelles, écoutez, achetez-le, vous découvrirez de quoi il s'agit chez Gallimard. Merci infiniment.